l'apôtre Paul dit le fruit de l'esprit. Vous vous rappelez, on s'était arrêté sur le fruit, c'était un dimanche, on avait regardé un petit peu ce que la parole de Dieu disait concernant le fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et le verset dit ceci, et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Voilà, donc on avait vu un dimanche, on s'est arrêté sur le fruit. Le mardi, on s'est arrêté sur le premier élément, hein, le premier élément que produit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit l'amour. Amen, c'est ce qu'on avait vu un mardi. Et là, on va voir ce matin ce que produit le Saint-Esprit encore. Il produit la joie. Mardi, je souhaite qu'on soit autant, aussi nombreux que ce matin. On va continuer avec la paix, l'amour, la joie et la paix. C'est ce que le Saint-Esprit produit en nous. On s'est arrêté sur le fruit. Le fruit produit quelque chose. Le fruit est constitué de plusieurs matières. Hein, on avait vu qu'il y avait la peau, la chair, les pépins. Et on s'était arrêté aussi sur la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons été conçus avec un corps, une âme et un esprit. Hein, la peau, la chair et les os, la même chose. Hein, et le Saint-Esprit, lui, il produit l'amour et il produit la joie. Amen. Allez, faites-moi un beau sourire. Que Dieu soit béni. Alors, la joie, je tiens à le dire, c'est pas la rigolade. Hein. On va voir ce que c'est que la parole de Dieu nous enseigne la joie. Et on va voir un petit peu ce que la... En tout cas, c'est certain, le Saint-Esprit doit produire en nous la joie. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit produit. Il produit l'amour, il produit... La joie, il produit la paix aussi, on verra au fur et à mesure des réunions, mais il produit la joie, et la joie. Et la joie, ça fait partie aussi de la vie chrétienne, ça fait partie de notre vie, de notre communion avec le Seigneur. Amen. Je me disais, on lit que le verset 22, mais je voudrais quand même lire un petit peu les deux versets qui sont avant, juste à partir du verset 19, pour le replacer dans son contexte. Verset 19, il est dit ceci, Galates chapitre 5, verset 19. Vous savez, c'est quand il parle de marcher selon l'esprit, etc. Et là, il met en parallèle la chair et l'esprit, et il dit ceci au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Il est inspiré là, c'est le Seigneur qui le conduit, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ensuite, bien sûr, il donne la solution, il donne l'ouverture, et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc., etc. Hein, voilà, que Dieu balaye tout ce qu'on vient de souligner, hein, qu'il y ait cette œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. J'ai regardé d'abord quelques citations et quelques significations et la signification de la joie. Je crois qu'on est tous au clair concernant la joie. La joie, vous regardez sur le dictionnaire, c'est la définition de la joie, c'est le bonheur et le plaisir. Et avoir quelque chose d'agréable. Alors je vais prendre quelque chose de basique, de simple, quelque chose quand on mange un bon gâteau par exemple, une bonne forêt noire ou je sais pas moi un tiramisu, hein, on le mange avec plaisir. Je sais pas si vous aimez les gâteaux. Qui n'aime pas les gâteaux, hein? Voilà, et donc il y a une sorte de plaisir, de joie, et donc hein, la définition de la joie, c'est le bonheur et le plaisir et quelque chose d'agréable, quelque chose d'agréable. J'ai regardé aussi, plusieurs définitions, sans rentrer dans les sites chrétiens, j'ai été étonné, j'en ai relevé quelques-unes. Il y a une définition qui dit ceci, et je dis bien, c'est pas un site chrétien, et cette personne dit ceci, la joie, c'est le Saint-Esprit, et la joie est un don de Dieu. J'étais sûr, je dis, tiens, je vais le mettre sur mes notes, parce que, c'est, bon, on aurait pu trouver ça dans un site chrétien, mais non, c'était dans un site normal, quoi. Des chercheurs disent que la joie relance l'individu et que la joie fait retrouver l'action. La joie, elle relance l'individu et elle fait et c'est vrai que quand on est animé de cette joie-là, on a tendance à repartir et à faire quelque chose. Et bien sûr, et la joie du Seigneur, elle nous amène à le servir encore un peu plus loin. Que Dieu soit béni. Alors la joie, c'est pas toujours l'extérieur. La joie, ça peut être l'extérieur, mais la joie, ça peut être aussi l'intérieur. Je pensais à cette image qu'on peut avoir. Hein. On peut se retrouver dans un lieu fermé, aller voir même en prison, et avoir cette joie du Seigneur. Hein? Il y a quelques textes, il y a un passage qui me revient à l'esprit, je ne l'avais même pas mis sur mes notes, j'aurais pu le mettre, c'est dans Actes chapitre 16, je crois, quand Paul et Silas sont en prison. Vous vous rappelez de ce passage? Et puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se lamenter, ils vont chanter les louanges du Seigneur, ils vont invoquer le Seigneur, ils vont chanter, ils vont le bénir, et puis là, Dieu est descendu dans la prison, et il est descendu dans la prison, hein, et puis les portes se sont ouvertes, et il y a tout un enseignement, mais... Voilà, même dans les endroits les plus refermés, on peut garder et on peut s'approprier cette joie. Et bien sûr, on peut l'avoir aussi à l'extérieur. On peut habiter dans un château. Je ne sais pas si vous habitez dans un château. Non ? Pas encore ? Non ? Oh, voilà, ça va venir. Gloire à Dieu. Mais on peut habiter à l'extérieur dans de belles demeures en ayant la joie aussi. Hein, donc. Elle est extérieure et aussi elle est intérieure. Je regardais, je vous disais qu'il y avait, j'avais relevé plusieurs citations, mais celle-là, je l'ai mise comme importante. Il y en a des dizaines et des dizaines de citations d'hommes célèbres. Hein. Et cet homme disait ceci, « Nous valons, écoutez bien, du verbe valoir, ce que valent nos joies. » Pour faire simple, on vaut ce que vaut nos joies. Hein? S'il n'y a pas trop de joie, eh bien ça va se voir aussi. Mais nous valons ce que valent nos joies. J'ai regardé même médicalement. Je ne sais pas s'il y en a dans il y a des frères et sœurs dans le médical ici. Levez la main. Voilà, c'est bien. Donc, comme ça, vous allez certainement que vous le savez. Médicalement, ce que produit la joie, je ne savais pas, hein, j'ai regardé, je me suis un petit peu documenté. La joie produit la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. La joie produit aussi la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. C'est ce que produit, et la joie, ça on le connaît un peu plus, au niveau sportif, on l'entend souvent, la joie produit l'adrénaline. Hein, c'est l'accélération, le rythme cardiaque. Hein, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les JO, mais des fois les sportifs ils sont au bout et puis il y a un sursaut de d'adrénaline et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent jusqu'au bout, ils arrivent à remporter et avoir la médaille d'or, etc., etc. Voilà ce que produit aussi la joie d'une manière médicale. Et pour terminer juste cette petite introduction. Il y a aussi cette citation, quelqu'un a dit que atteindre la joie, et c'est à partir de là qu'on va voir le premier exemple biblique, atteindre la joie, c'est passer par des moments de souffrance aussi. Atteindre la joie, c'est aussi passer par des moments de souffrance. Alors que je mettais cette dernière citation sur mon papier, sur mes notes, de suite j'ai pensé à ce passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, on le chante même dans le livre de Néhémie, au chapitre 8 et au verset 10. Quand Néhémie, on va le lire si vous voulez, chapitre 8, verset 10, quand Néhémie dira en conclusion de ce verset 10, « La joie, vous vous rappelez de ce verset, du Seigneur sera votre force. La joie du Seigneur sera votre force. » On va lire le verset 10. Et c'est vrai que quand je relisais, je riais tout seul c'est Esdras qui a lu ce texte, hein, parce qu'Esdras était à l'époque là aussi, et il dit ceci, regardez, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car le jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Ce matin, je priais pour tout vous dire. Moi, je vous parle simplement. Je priais à la maison du Seigneur. Mais ta joie, Seigneur, c'est notre force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. La Bible dit dans un livre, dans les psaumes, que Dieu augmente notre force pendant la marche. Mais la joie de mon Seigneur, c'est ma force. Amen. Alors, bien sûr, il leur dit manger, buvez, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours remarqué que quand on est devant un bon repas, eh bien, les langues se délient et souvent il y a un peu plus de joie, non? Quand il y a de la nourriture. Voilà. Et c'est ce qu'il leur dit, c'est ce qu'il leur propose. Mais je disais tout à l'heure que atteindre la joie, c'est passer aussi par des moments de souffrance. Et quand on regarde le début de la vie de Néhémie, et là, à ce moment où il dit « la joie du Seigneur sera votre force », il s'est passé quand même des moments difficiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais résumer, je vais souligner quelques versets de la vie de Néhémie. Néhémie est en déportation quand on lit le chapitre 1er. Vous vous rappelez de ce passage, il apprend par un serviteur qui est venu, il est à Suse, dans la capitale, et il y a quelqu'un qui vient de Jérusalem, et il va lui faire cette annonce, les portes sont consumées, les murailles sont écroulées, et Jérusalem est à l'opprobre, c'est-à-dire c'était la honte. Et là, quand on lit, on va le lire, chapitre 1er, versets 3 et 4, Néhémie, et le réflexe de Néhémie, de suite, il n'a pas dit « la joie du Seigneur sera votre force », mais le texte nous dit, on va le lire si vous voulez, il va passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Je me dis que devant un tel désastre, eh bien notre réflexe, je reviens du congrès, des assemblées de Dieu, et je disais à Pierre, on s'est fait beaucoup de bien, parce que en octobre, c'est spirituel, on passe du temps dans la présence de Dieu, et vraiment, on a eu des moments excellents. Et le thème, c'était prions ensemble. Mais frère, c'est très basique, je vais vous dire. Mais si on n'a pas cette vie de prière, ça va être difficile. Il est dit dans le verset 3 que Néhémie va jeûner et va prier quand il va apprendre ce qui s'est passé à Jérusalem. Regardez ce qu'il est dit. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, et on va s'arrêter sur la prière. Son réflexe, ça a été d'abord de passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Et on fait bien d'avoir des semaines de prière. Nous, on est à la Seyne-sur-Mer. Moi, je donne un coup de main à mon collègue. Moi, je suis pas le président. Mais tous les mois, on a une semaine de prière. On passe du temps dans le jeûne et dans la prière. Et je me souviens, je disais à mon collègue, pour tout vous dire, rien à cacher. Mais quand j'étais sur la Rose pendant sept ans, on a prié. On faisait 3 semaines de prière et 1 semaine de repos. Toute l'année, l'été compris, toute l'année pendant 7 ans, ça a été comme ça. Et on passait du temps dans le jeûne et dans la prière et il y avait 1 semaine du matin, 1 semaine du soir et 1 semaine à l'église. Et ça a été ça. Et c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour cette église. Il a passé du temps dans le jeûne et la prière. On a la prière. Regardez la prière. Je veux la citer parce que c'est un enseignement pour nous. Regardez ce qu'il dit dans le verset 6, donc verset 5, il prie et il dit ceci, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, déjà, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Et ça, je l'ai souligné parce que il s'inclut. Et je me dis, en réfléchissant, ça c'est quand je suis revenu sur ce texte, je connaissais ce texte, mais il s'inclut, il dit « Moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Il aurait pu dire, Néhémie, il était déjà en déportation. Déjà, il avait été arraché de son pays. Il aurait pu dire, mais bon, moi, je suis en déportation, je vais pas aller. Hein? Mais il s'inclut dans la désobéissance. Nous avons péché, etc., etc. Je crois que c'est important. Ça, c'est une leçon d'humilité. Il a pas dit, bon, ben, je les laisse. Il se débrouille. Non. Hein, il s'inclut et il va passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Juste pour notre gouverne. Et au verset premier, il est question du mois de Kisleu. Le mois de Kisleu, ça correspond au mois de novembre. Et au chapitre 2, quand il va être exaucé par le roi, et c'est le mois de Nissan, qui correspond au mois de janvier. On pense qu'il a peut-être pas passé 3 mois. Il a pas passé 3 mois dans le jeûne et la prière, mais il a dû faire des pauses comme ça, mais il a passé du temps dans l'intercession jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause du roi. Le texte nous dit qu'à cette époque, il était échanson. Je reviens, et il dit, nos péchés, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, verset 7, nous n'avons point observé les commandements, les lois, et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur, souviens-toi de cette parole, etc. Et il dira, en conclusion du chapitre 1er, j'étais alors échanson du roi. Et vous savez qu'au chapitre 2, il va obtenir gain de cause, et il va pouvoir retourner sur Jérusalem pour partager ce que Dieu avait mis sur son cœur. Regardez au chapitre 2, je morcelle comme ça, simplement, parce que... Vous l'avez déjà entendu, certainement prêché sur Néhémie. Ce qui caractérise Néhémie, c'est qu'il va rebâtir. Et je me dis, mais soyons des bâtisseurs aussi. Amen. On va rebâtir, on va construire, on va se lever, on va se retrousser les manches, on va construire. Et il dit ceci au verset 17. Je leur dis, alors, vous voyez le chapitre 2, verset 17. Le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons les murailles de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Verset 18, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ça plaît pas à l'ennemi. Frères et sœurs, je m'inclus avec vous, hein. Je suis là, je m'inclus avec vous. Moi, je partage simplement, je m'inclus avec vous. Mais si on décide de bâtir l'Église, bien sûr, le chef de la construction, c'est le Seigneur. Il dira, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais nous, on va participer comme Néhémie va lancer la construction. On va participer. Et ça plaît pas à l'ennemi. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de faire d'études théologiques. On comprend très bien quand on lit le verset 19, il est question de Sambala, de Tobija, de Gershem, etc., qui vont se moquer. Et quand je relisais le texte, ça m'a touché parce qu'on sait ce qui se passe en Israël et on sait ce qui se passe sur Jérusalem, on sait les conflits qu'il y a et les moqueries qu'il peut y avoir contre Israël. Ils se sont moqués. L'ennemi se moque. L'ennemi se moque. Regardez au verset 19, il dit qu'ils vont se moquer, etc. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Mais si on décide de se retrousser les manches et de bâtir, le Seigneur va nous donner du succès. Il va donner du succès à l'église d'Aubagne. Ils n'ont pas peur d'employer le mot succès. C'est ce que Dieu veut. Il veut pas du succès pour nous, mais il veut du succès pour son œuvre et pour son église locale. Chapitre 4. On retrouve encore l'ennemi qui persévère. Regardez, chapitre 4, verset 1er, Sambala a pris que nous rebâtissions la muraille et il fut en colère et très irrité. Le diable est en colère quand on décide de bâtir. Le diable est en colère quand on décide de s'unir. Il se moqua des juifs. Antisémitisme. On parle d'antisémitisme, c'est pas d'aujourd'hui l'antisémitisme, c'est depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé avec Abraham et la servante. Ces deux peuples, ils sont toujours en conflit. Vont-ils achever, redonneront-ils vie à des pierres? Il y a tellement de nourriture là-dedans. Les pierres, c'est nous. Et regardez ce qu'il dit. Peut-être que quelqu'un est comme ça. Redonneront-ils à des pierres enseveli sous des monceaux de poussière et consumé par le feu. Et des fois, on est comme ça, on est comme consumé, on est des pierres, un tas de pierres. Hein, et Dieu veut faire de nous des pierres vivantes. L'apôtre Pierre dit qu'il a fait de nous des pierres vivantes qui vont se rajouter à l'édifice, à la construction, au bâtiment. Et le diable, lui, il veut nous casser. Hein. Et d'ailleurs, il disait, regardez un petit peu la méchanceté. Et quand il dit au verset 3, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Et si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Voilà, il se moquait, ouais, ils sont en train de construire, mais ça va pas tenir, etc., etc. Je résume. Je voudrais m'arrêter sur ceux qui bâtissaient. Je me suis dit, j'ai mis sur mes notes, c'était pas des manchots ceux qui bâtissaient. Regardez ce qu'il est dit au verset 17. Ils bâtissaient d'une main et ils avaient l'arme de l'autre. Ils avaient pas de main gauche, mais ils bâtissaient d'une main et ils avaient l'arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Je résume, verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. Écoutez bien, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. C'est autre que 8 heures par jour qu'il faisait là. Hein? Dès que le jour pointait jusqu'aux étoiles, il travaillait, il s'arrêtait pas. Verset 23, nous ne quittions point nos vêtements, ni moi. Et là, je relisais ce matin encore, ni moi. Il était là, lui. Il dit pas aller, mais il y est, lui. Il est dans la construction, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ils ont travaillé jour et nuit pour la construction. Il y en a un qui veut pas qu'on construise, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, qui va se moquer de nous. Chapitre 6, on retrouve encore. Je me disais, mais on pourrait avoir ce même propos pour l'église d'Aubagne. Regardez, là encore, on retrouve au chapitre 6, verset 1er, qui vont encore se moquer. Et il dit ceci, je vais le lire en entier, le verset 1er. Je n'avais pas encore posé les battements des portes lorsque Sambalat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Et là aussi, ça m'a interpellé, je l'ai souligné. Il n'y avait plus de brèche. Amen. Vous savez, connaissez ce passage où il est dit que le Seigneur, c'est le réparateur des brèches. Amen. Il n'y aura plus de brèche. Si on se lève pour bâtir, il n'y aura plus de brèche. Gloire à Dieu. Les brèches. Et ça, ça ne plaît pas à l'ennemi. Parce que quand il y a des brèches, il y a tout qui s'infiltre. Hein. Vous savez, quand il y a une fissure dans une maison, il y a l'humidité, il y a la pluie, il y a l'intempérie. Quand il y a un trou dans une porte, c'est exactement... Les animaux, tout peut rentrer. Et on peut amener tout ça dans le domaine spirituel. Mais là, les brèches étaient fermées. Et l'ennemi est venu encore. Je leur envoie. Regardez. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens. Regardez un petit peu la tactique de l'ennemi. Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onno. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais. Connais cette même réponse. Je leur envoyais des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent quatre fois. Ça, c'est. Il persévère l'ennemi aussi, hein. Quatre fois, ils m'adressèrent quatre fois la même demande et je leur fis la même réponse. On n'a pas de temps à perdre avec toi. Nous, on veut construire. Amen. Et même une cinquième fois, que Dieu soit béni. Et au chapitre 8, j'avais relevé donc ce verset du verset 10. Et le texte nous dit qu'en 52 jours, chapitre 4, en 52 jours, ils vont reconstruire la muraille et ils vont fermer les portes, hein, de Jérusalem. Vous savez que Jérusalem était entourée d'une muraille. Il y avait des portes, il y a plusieurs portes. On retrouve les portes aussi dans le livre de Néhémie aussi. Et là, ils vont construire. Et en 52 jours, tout va être bouclé. 52 jours, ça fait pas tout à fait 2 mois. Hein? Ça fait pas tout à fait de moi. Un peu moins. Gloire à Dieu. Et pour conclure, je disais quand même, j'étais jusqu'au bout du livre de Néhémie, et puis j'avais oublié ce passage. À un moment donné, le peuple, alors ça m'a fait un peu sourire, je dis tiens, je vais le partager avec les frères et les sœurs d'Aubagne. Chapitre 13, verset 23, c'est quasiment à la fin du chapitre, et le peuple s'était détourné encore, comme quoi qu'il faut venir et revenir à chaque fois sur la parole, revenir sur la vie de l'esprit, sur la communion, etc. Verset 23, à cette même époque, je vis des Juifs, ça aussi, qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. Et vous savez que ça, c'était des mouches qui empoisonnaient l'huile du parfumeur, hein. Toutes ces tribus qui étaient là, les Ammonites, les Moabites, on sait de qui ils descendent. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes, donc il va les reprendre. Je me dis, oh là là, heureusement qu'on reprend plus comme ça, hein. Regardez ce qu'il dit, je les réprimande, je leur fis des réprimandes, et bon, ça c'était sous la loi, hein. Et il dit ceci, j'ai perdu le fil. Verset 25. Ah oui, et je les maudis, j'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de mon Dieu en disant etc., etc. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Hein. Il leur a sauté dessus, il leur a mis une raclée, une rouste, il leur a arraché les cheveux. Alors je riais, je dis moi il aura eu du mal de m'arracher les cheveux, mais quand même. Hein. Et parce que le peuple c'était bon, allez, je ferme la parenthèse. On va s'arrêter maintenant sur d'autres textes où il est question de la joie. Mais c'est dans ce contexte-là, ça a été difficile, mais ensuite il y a eu ce temps où ils se sont réjouis dans la présence de Dieu. Je pensais à ce passage dans le livre des psaumes aussi. D'ailleurs, je rajoutais encore un psaume. Vous savez, quand on médite, on revient à chaque fois sur le psaume. Dans le psaume 9, oui. Et c'est David qui dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je raconterai toutes tes merveilles et je ferai de toi le sujet de ma joie. » Amen. Louez le Seigneur avec joie. Moi je me permets de le dire, mais il faut qu'il soit... Un culte, c'est quand même une action de grâce. Il doit y avoir de la reconnaissance, bien sûr. Mais il doit y avoir aussi de la louange, de la joie dans la louange. Amen. Je ferai de toi, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je raconterai, ça c'est le témoignage, je raconterai toutes tes merveilles et je ferai de toi le sujet de ma joie. C'est-à-dire que tu seras le premier, le sujet de ma joie, tu seras le premier. Matthieu chapitre 6, verset 33, je crois que c'est verset 33, où Jésus dit, cherchez d'abord. Amen. Le sujet de ma joie. Et j'ai rajouté dans le psaume 122, au verset premier, quand David dit, je suis dans la joie, d'ailleurs on le chante, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Que notre louange soit accompagnée d'allégresse. Amen. Hein, quand on regarde d'où on est, d'où le Seigneur nous a tirés, même si on n'était pas de grands pécheurs, mais on était tous perdus. Il n'y avait pas un juste, pas même un seul. Et je veux te louer, Seigneur, de tout mon cœur. Et renouvelle-moi dans cette joie. Gloire à Dieu. Dans le psaume 34, ça c'est un psaume classique, hein, au verset 6, David dit ceci, quand on tourne les regards vers toi, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Amen. La joie se voit même sur notre visage. On est rayonnant de joie. Et de suite, bien sûr, sans faire trop d'efforts, de suite j'ai pensé à Moïse. La première fois dans Exode 32, il monte 40 jours, il parle avec le Seigneur pendant 40 jours, il redescend. Et qu'est-ce que fait le peuple? Il s'est détourné. Ils ont fait le veau d'or, ils se sont mis à danser. Ah, pour danser, ils se sont mis à danser de bon matin, hein. Ils se sont pour se divertir. On est toujours d'accord pour se divertir. Et là, quand il redescendait, il dira, mais ce ne sont ni des cris de victoire, ni des cris de vaincu, mais c'est mon peuple qui s'est éloigné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il casse les tables, il remonte, il repasse encore 40 jours. Et au chapitre 34, il est dit que lorsqu'il va redescendre, vous vous rappelez de ce passage? Son visage était rayonnant. Et rayonnant. Il était obligé de se couvrir. Il était rayonnant. Gloire à Dieu, qu'on puisse rayonner de la joie. Quand on tourne le regard vers le Seigneur, et la Bible dit, vous lirez dans Exode 34, il avait parlé à Dieu pendant 40 jours. Le miracle s'est produit, hein. 40 jours là, à jeûner, en principe, on ne tient pas, hein. Physiquement, humainement, on ne tient pas. Mais là, il y a eu le miracle. Et dès qu'il ouvrait la bouche, je dis, Seigneur, des fois, nous, on ouvre la bouche et il n'y a rien qui se passe. Mais là, il avait à peine ouvert la bouche que tout le peuple obéissait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec Dieu. Son visage était rayonnant. Il ne le savait même pas. Amen. Que Dieu puisse nous faire rayonner de sa joie. Que Dieu soit béni. J'avais relevé aussi ce passage dans le psaume 45, ça nous parle du Saint-Esprit, je l'ai noté. Psaume 45, verset 8, je vais vous le lire, il est dit ceci. « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu... » Il parle de Jésus, là, hein, peut-être que vous le connaissez ce passage. « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, le Saint-Esprit, il nous conduit dans la joie, une huile de joie. Amen. L'huile, c'est symbole du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien Dieu nous donne cette joie aussi, cette joie de le servir, cette joie de la communion fraternelle, cette joie de le prier, cette joie de venir dans sa maison, cette joie de communier ensemble. Gloire à Dieu. Une huile de joie. Seigneur, déverse ton huile. Amen. Sur ma vie, pour qu'il y ait cette joie, que Dieu soit béni. Par contre, dans le psaume 51, il est aussi question de la joie, mais là, c'est David qui dit ceci, « Rends-moi... » Il y a tout un enseignement, relisez le psaume 51, il y a tout un enseignement, « Rends-moi la joie de ton esprit. » Hein, de ton salut, pardon. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il avait perdu la joie. Il avait perdu la joie du salut. Ça vous arrive de perdre la joie? Moi, ça m'est arrivé. Des fois, on sent que... Non? Et David, il avait perdu. On sait ce qu'il a fait. Le psaume 51, c'est un psaume de repentance. On sait que ça fait allusion à 2 Samuel chapitre 11 et 2 Samuel chapitre 12, quand David, au lieu de partir à la guerre, il va rester sur son palais, hein, et puis il va commettre l'adultère, etc. Chapitre 12, c'est Nathan qui vient et qui lui parle de la brebis, etc. Et David rentre dans une colère et dira, mais cet homme, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, c'est toi. Et dans ce psaume 51, c'est un psaume de repentance. Il avait perdu la joie. Il avait perdu la joie. Je voudrais juste souligner les quelques points dans le psaume de repentance, juste les lire, c'est tout. Regardez ce qu'il dit, parce qu'il y a un enseignement à tirer en conclusion au verset 15. Regardez ce qu'il dit au verset 3, psaume 51, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi. » Il se repent, il demande pardon. Ensuite, il dit « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Verset 4, « Lave-moi complètement. » Verset 4, « Purifie-moi de mon péché. » Verset 5, « Car je reconnais mes transgressions. » Verset 6, « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Verset 7, « Je suis né dans l'iniquité. » Verset 8, « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi. » Il confesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse. Détourne, verset 11, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Et rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Regardez ce qu'il dit ensuite en conclusion. C'est seulement à partir de ce moment-là, pas avant. Une fois qu'il a confessé, et pitié, etc., 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 il dit ceci, verset 15, « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. » Frères et sœurs, il y a une loi avec le Seigneur. On ne peut pas transgresser, on ne peut pas annoncer, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas enseigner s'il n'y a pas la confession. D'abord, il a confessé. Ensuite, il a dit « Rends-moi la joie de ton esprit. » Et à partir de là, uniquement à partir de là, je pourrai apporter quelque chose au Seigneur. Au Seigneur de la part du Seigneur, pardon. Mais sinon, s'il n'y a pas confession, il ne peut pas enseigner, il ne peut pas apporter. Mais c'est parce qu'il a confessé qu'ensuite, il dira, mais alors ce moment-là, je pourrais enseigner à ceux qui les transgressent. Amen. Passer par la repentance, passer par la confession. Si nous confessons nos péchés, dit l'apôtre, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il y a d'abord la confession, la repentance et ensuite. Mais on peut perdre aussi la joie que Dieu vienne. Peut-être que quelqu'un a perdu la joie ce matin. Je sais pas. Hein? On est là et puis on suit. Mais c'est que le Seigneur est capable de vous redonner cette joie. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de textes qui nous parlent de la joie. Les mages ont été saisis d'une grande joie quand ils ont vu l'étoile et qu'ils ont suivi l'étoile et qu'ils se sont arrêtés sur les tables. Ils ont été saisis d'une grande joie. L'ange va s'adresser au berger. Il dira, je vous annonce le sujet d'une grande joie. Je vous annonce... on va le lire. Je veux pas tronquer le texte. Luc chapitre 2, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10, il dit ceci. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Concernant Jésus, tout à l'heure, je parlais du Saint-Esprit, et je tiens à le souligner. Luc chapitre 10. Jésus aussi a connu cette joie. Regardez ce qu'il est dit. Vous savez, c'est quand les 70 disciples sont venus et qui diront, Seigneur, les démons nous sont soumis. Et Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est bien quand le mal est chassé. Mais ce qui est le plus important, c'est que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas, etc. Et au verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, etc. Il va tressaillir. Je sais pas si ça vous est arrivé de tressaillir de joie, de la plante des pieds. Être visité par le Saint-Esprit, il va tressaillir de joie par le Saint-Esprit, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il y a comme une visitation qui s'est passée chez le Seigneur. Amen. Seigneur, moi je veux tressaillir de joie. Hein, tout mon être, gloire à Dieu, tout mon être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. J'arrive presque à la fin. Dans l'évangile de Jean aussi, il est question de la joie quand on s'attache à la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 9 et 10, même verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et souvent, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais souvent quand on est à des lecteurs fidèles de la parole de Dieu, souvent, hein, le Seigneur, au travers d'un texte, il nous redonne cette joie et on repart, comme je le disais tout à l'heure, dans la définition de la joie. Hein, on se remet dans l'action, on se remet à faire quelque chose parce que la parole de Dieu nous communique cette joie. Amen. Même s'il y a des moments où ça nous reprend, mais c'est pour notre bien. Chapitre 16, verset 24 de Jean, sans aller trop loin, regardez ce qu'il est dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On peut avoir une joie parfaite. Dans la même pensée, chapitre 17, verset chapitre 17, verset 13. Regardez ce qu'il est dit. Chapitre 17, verset 13. Voilà. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Encore un texte qui nous parle d'une joie. On peut avoir cette joie parfaite, que Dieu soit béni. Je termine avec Romains chapitre 15. Ensuite, on va chanter un petit chœur. Hein. Romains chapitre 14, pardon, versets 17 et 18. Ça m'a fait sourire un petit peu. Romains chapitre 14, verset 17 et 18, il est dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas le manger et le boire, hein. Paul aux Philippiens, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, et il dit dans les Corinthiens, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, dans 1 Corinthiens 15, 32. Non. Alors, mais le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voilà, je vais demander aux musiciens de venir. Je termine avec ce que Jacques dit dans chapitre 5, verset 13. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Voilà, qu'il prie. Et ensuite, il dit, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Voilà. Quand il souffre, il prie. Et quand il est dans la joie, il chante des cantiques. C'est ce qu'on va faire. On va prendre ce petit cœur qu'on connaît par cœur. Vous voulez qu'on se lève? On terminera avec ce petit cœur. La joie est dans mon cœur parce que Jésus est mon sauveur. On le connaît, hein? C'est un chant qui doit avoir au moins une soixantaine d'années, peut-être plus même, peut-être plus. Vous rappelez de ce chant, oui? La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur, il est le tout. Puissant, il marche de... Allez, les sœurs. Allez, les sœurs. La joie est dans... Les sœurs. Allez, les frères. La joie est dans mon cœur, car Jésus est... Il est ma délivrance, c'est mon libérateur, il est le tout puissant, il marche de... Allez ensemble, gloire à Dieu. La joie est dans mon cœur. Merci Seigneur, déverse-la cette joie. Il est le tout puissant, il marche de... Et la joie est dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on se donne rendez-vous mardi à 18h30 et on continue. On va s'arrêter sur ce que produit l'Esprit, et l'Esprit produit aussi la paix. On termine par la prière. On va demander au frère Guerrero, vous voulez bien terminer s'il vous plaît par la prière?
Accompagner chaque